مصيطيني زماني اللي غايب عالحياة الفرحة طقطقطقطقطيني مصيطيني زماني اللي غايب عالحياة الفرحة. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Rock & Page, le magazine littéraire qui aime la musique, Marie-Pierre Soriano au Commonde. Tous les 15 jours, nous avons rendez-vous. Le principe de l'émission, il est simple. Je bouquine, roman, BD et dès lors que je trouve qu'un voyage vaut le détour, alors avec vous, je le partage. Et pour y parvenir, en essayant de faire tomber de bien sottes frontières, je chronique, bien sûr, j'interviewe aussi les auteurs dès que cela est possible. Et puis, je vous propose un tout petit plus, une playlist, ou plutôt la playlist, celle qui, en toute subjectivité, retranscrira au mieux les émotions que j'ai pu ressentir au fil de la lecture évoquée. Un rythme pour vous dire un récit, un timbre de voix pour vous restituer un personnage ou une époque, des instruments pour vous rendre des univers, il est là, le principe de Rock'n'Page. Et aujourd'hui, à l'honneur, le 8e roman d'une auteure française que j'affectionne tout particulièrement. Il s'agit de La Grâce des Brigands, de Véronique Ovaldé, paru aux éditions de l'Olivier en août dernier. J'ai préféré laisser passer la satanée cohue de la rentrée littéraire pour que, bien au calme, vous l'entendiez en grand, ce partage de romans. Pour éviter les palpitements cardiaques à la librairie, ces mauvaises ondes causées par la surmédiatisation médiocre de la rentrée littéraire. Et comme j'ai beaucoup, beaucoup de chance, je peux déjà, avec beaucoup de fierté, vous annoncer que Véronique Ovaldé, d'ici une poignée de minutes, me fera l'immense honneur de se prêter au jeu de l'interview pour Rock'n'Page. Comment je vous dirais l'impression qui est restée gravée à la lecture de La Grâce des Brigands ? Eh bien, comme ça. Caribou avec Odessa pour dire l'Odyssée justement que nous compte encore une fois dans une langue exceptionnellement riche et puissante, Véronique Ovaldé. Alors c'est bien simple, c'est encore une trajectoire de femme qu'on voit en l'air Ovaldé pour observer ou maîtriser, va savoir, comment elle retombe, quelle est sa courbe. Et ajouter à cela que certes c'est encore une vie ou un portrait de femme que nous offre Ovaldé, mais cette fois, excusez du peu, cette femme est écrivain, tiens tiens, et c'est juste pour la rime. Maria Christina Vahatonen est donc née au Canada dans un village mennonite minuscule et asphyxiant. d'une mère qui l'est tout autant, asphyxiante, et d'un père lunaire, immigré finlandais, d'où le nom de famille, attachant comme on n'en fait plus, mais pas courageux pour dessous. Enfin, en tout cas, pas suffisamment pour faire barrage de son corps entre cette femme toxique qu'est la mère de leurs deux filles. Le roman commence à la fin des années 80, à Santa Monica, en Californie, donc. Maria Cristina reçoit un coup de fil de sa mère, qui exige d'elle qu'elle vienne chercher un petit garçon. L'histoire nous est donc racontée rétrospectivement. La grâce des brigands est l'histoire du départ de Maria Cristina, et puis de son arrivée en Californie et donc de sa vie. Ses rencontres, et justement dans ses rencontres, évidemment, des brigands en embuscade qui l'attendent. Et cette Maria Cristina-là, écrivain qui connaîtra un succès immense, à la détermination aussi puissante que le sont ses fragilités et ses innocences, du moins celles du début de sa vie, moi je vous la dirais bien comme ça, au bas mot. Nina Simone et son cri désespéré et courageux, empli d'espoir, ce « je n'ai rien, rien d'autre que ma vie » pour vous dire donc ce personnage que nous offre Véronique Ovalde dans « La grâce des brigands » et que moi je garderai comme un trésor. Avant de recevoir pour vous Véronique Ovalde, je dirais qu'une fois de plus, tout est spectacle dans ce roman-là, son personnage et son histoire bien sûr, le fait que cette héroïne-là soit écrivain et que ce soit encore une autre écrivain qui la raconte cette histoire, c'est aussi le spectacle de la Californie des années 70 qui est quand même la terre de l'insurrection, des noms, des interdits qui tombent, qui est rien d'autre que le négatif photo de La Pérouse, ce petit village canadien étouffant où est née Maria Cristina. Notez que la Californie dans les années 70, au-delà, c'est la terre de Kerouac, de Philip K. Dick, James Ellroy, plus tard Bret Easton Ellis, Huxley, Steinbeck ou Jim Morrison, et musicalement ça pourrait s'entendre dans ce joyeux bordel là. But you and me, but now my need for love is grown. I'm gonna have to set you free. I gotta get me a man to take care of business better than you do. Your cheating and lying got the best of me. I'm gonna get the best of you. Ba 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 ba. Une fois n'est pas coutume dans Rock and Page, une sorte de patchwork pour vous restituer une époque et sa tonalité, le cadre donc de La grâce des brigands de Véronique Ovalde, paru chez L'Olivier, et dont il est aujourd'hui question dans Rock and Page. Je dirais en substance que l'affranchissement de l'héroïne, cette Maria Cristina Vahatonen, passe par des mauvaises rencontres, et notamment celle avec Clara Mount, écrivain reconnu et fantasque, nobélisable, mais vieillissant et tricheur au dernier stade. C'est lui qui la prendra sous son aile d'écrivain, sorte de Pygmalion, qui la guidera dans ses premiers émois sexuels autant que dans les premiers pas de sa carrière professionnelle. Une fois affranchie et libérée de ses chaînes, une fois son histoire bouclée, et donc en capacité de faire face à ce monstre qu'est Clara Mount, on assiste à une scène jubilatoire, une scène qui vient après un périple qui, en somme, réconciliera Marie-Christina avec elle-même. Et voilà en teneur cette scène entre Clara Mount et elle, comment elle pourrait s'entendre.
Prince des monts en l'air et de la cambriole, toi qui eus le bon goût de choisir ma maison, cependant que je colportais mes gaudrioles, en ton honneur j'ai composé cette chanson. Sache que j'apprécie à sa valeur le geste qui te fit bien fermer la porte en repartant, de peur que des rôdeurs n'emportent à ceux le reste, des voleurs comme il faut, c'est rare de ce temps. Tu ne m'as dérobé que le strict nécessaire, délaissant dédaigneux l'exécrable portrait que l'on m'avait offert à mon anniversaire. Quel bon critique d'art, mon salaud, tu ferais. Autre signe indiquant toute absence de tard, respectueux du brave travailleur, tu n'as pas cru descendre de me priver de ma guitare. Solidarité sainte de l'artisanat. Pour toutes ces raisons, vois-tu, je te pardonne sans arrière-pensée, après mûr examen, ce que tu m'as volé, mon vieux, je te le donne. Ça pouvait pas tomber en de meilleures mains. D'ailleurs, moi qui te parle avec mes chansonnettes, si je n'avais pas dû rencontrer le succès, j'aurais tout comme toi pu virer malhonnête. Je serais devenu ton complice, qui sait. En vendant ton butin, prends garde au marchandage, ne va pas tout lâcher en solde aux receleurs. Tiens-leur la dragée haute en évoquant l'adage qui dit que ces gens-là sont pis que les voleurs. Fort de ce que je n'ai sonner les gendarmes, ne te crois pas du tout tenu de revenir, ta moindre récidive abolirait le charme. Laisse-moi, je t'en prie, sur un bon souvenir. Monte en l'air, mon ami, comment bien te profite, que Mercure te préserve de la prison. Et pas trop de remords, d'ailleurs nous sommes quittes. Après tout, ne te dois-je pas une chanson. Post-scriptum, si le vol est l'art que tu préfères, ta seule vocation, ton unique talent, prends donc pignon sur rue, mets-toi dans les affaires, et tu auras les flics même comme Chaland.
Les l'immense Brassens interprété par Pauline Croz pour dire tout le cran de Maria Christina face à Clara Munt, l'imposteur, une fois qu'elle s'est libérée de ses chaînes. Allez, allez, il est grand temps pour moi de laisser la parole à Véronique Ovalde qui, bien mieux que moi, va vous en causer de son somptueux roman. Véronique Ovalde, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour.
La Grâce des Brigands est votre 8e roman, et si je dis pas de sottises. Alors, vous avez continué d'explorer la question de l'affranchissement, de la liberté et de son prix, de l'instant qui permet à chacun, je dirais, d'échapper à ce qui serait des sortes de fatalités. Et là, donc, abracadabra, vous allez encore un peu plus en profondeur, puisque Maria Christina Vatonen va échapper à son étroit point de départ par l'écriture.
Eh oui.
C'est la première fois, ça.
Ah ouais. En général, personne ne lisait dans mes livres, personne n'écrivait, et je me suis dit que c'était quand même un peu bizarre que je n'ai pas cette possibilité d'émancipation dans mes romans, parce que finalement, c'était celle que j'avais connue moi, et je pense que justement, je tournais autour du pot depuis un moment, et que j'avais besoin, il fallait que je parle à ce moment-là, à mon 8e roman, comme vous disiez, il fallait que je parle de cette possibilité d'émancipation qu'on peut trouver dans les livres, cette façon qu'on a de se sauver grâce aux livres des familles asphyxiantes, comme je le dis dans le roman. Je crois qu'on est nombreux à avoir eu cette expérience de l'émancipation et de la liberté par les livres, par la lecture d'abord, et aussi évidemment par l'écriture, par la pratique personnelle. Et voilà, donc je pense que c'était important pour moi d'en parler. Je ne pouvais pas en parler directement en disant c'est impossible pour moi de faire ce genre de choses, de raconter l'histoire de Véronique Ovalde qui vient de son petit bled de banlieue, etc. Donc je déplace évidemment, je déplace l'histoire, je déplace l'itinéraire d'un écrivain, d'une femme écrivain aux États-Unis dans les années 70.
Alors sur vos précédents romans, vous évoquiez votre lecture de Bolaño par exemple, et puis on se situait en Amérique latine. Est-ce que pour construire, fabriquer, inventer cette Californie des années 70-80 qui est juste un territoire fou, incroyablement riche et dans l'insurrection, le contraire de la Pérouse en somme, est-ce que vous êtes replongé dans Folk Ner, Kerouac, Jim Morrison,
non,
Huxley.
Pas particulièrement. En fait, c'était je pense que vraiment les fondamentaux de mes lectures quand j'étais adolescente, et c'est très important, les lectures adolescentes, c'est ça qui va vraiment forger un imaginaire, une façon de voir le monde quand on est adulte, et c'était essentiellement la littérature américaine, justement des années 70. J'étais fascinée par ce monde-là, par ces écrivains, par John Didion, par Isherwood, par aussi le cinéma américain des années 70, hein, Cassavetes, Altman, et voilà, tous ces cinéastes-là. Donc, c'est un monde que je n'ai jamais connu évidemment, mais qui m'est très très familier du coup, évidemment. Et il y a ce pouvoir d'attraction de l'Amérique, pour nous les gens du vieux continent, qui est un mélange d'attraction, de répulsion, cette fascination qu'on a pour justement cette possibilité de liberté qu'il y a là-bas, et en même temps, tous les laissés pour compte, tous les brigands qu'on peut y rencontrer. Il y a vraiment aussi une espèce de, à la fois un culte de la réussite et aussi un culte du sabotage. C'est assez fascinant, évidemment.
Un très fort potentiel érotique aussi.
Bien sûr, oui, c'est très, c'est énorme. Ce que l'attirance qu'on peut avoir là, et justement, comme je disais, il y a attirance et répulsion. Si ça, c'est pas de l'érotisme, je sais pas ce que c'est.
Bon, et alors, cette narratrice, alors, c'est la seule personne qui se permette le jeu, la seule qui sera invitée au mariage de Maria Christina. Maria Christina, qu'est-ce qu'elle vous a permis à vous, Véronique Ovalde?
Mais pourquoi Lidou, c'est une femme? Il n'y a aucun indice qui vous indique que c'est une femme.
Ah, c'est ça. Parce que bêtement...
parce que bêtement, c'est moi qui écris et du coup, vous dites
c'est
une narratrice.
Ah, vous pouvez pas nous dire des choses pareilles après avoir écrit un livre pareil. C'est un livre sur qu'est-ce que c'est d'être une femme et d'être écrivain. Alors oui,
mais
je suis allée jusqu'au bout.
C'est très intéressant parce que moi, ce qui m'intéressait aussi beaucoup, c'était de raconter cet itinéraire d'une femme qui devient écrivain. Il fallait que quelqu'un raconte cette histoire. C'est qu'en fait, ce qui m'intéresse aussi, c'est la façon dont on fait le récit de nos vies et dont on fait le récit de la vie de quelqu'un d'autre. Comment on va justifier les décisions injustifiables de nos vies? Comment on va faire que tous les accidents de nos vies, tous les hasards de nos vies vont avoir un sens. On va tenter en fait de leur donner du sens. On va tenter de les faire rentrer dans une de force presque dans une logique. Et ça m'a toujours fascinée cette façon qu'on a de raconter la vie des gens. Et du coup, il fallait dans ce roman qu'il y ait un narrateur, qu'il y ait quelqu'un qui décide d'être le biographe en fait, de Maria Cristina, d'être le biographe de cet écrivain fictif, puisqu'elle n'a pas existé, Maria Cristina, même si elle porte énormément de questions de beaucoup d'écrivains, beaucoup de femmes écrivains. Il fallait qu'il y ait cette personne, ce regard, cette personne qui soit continuellement en train de la regarder, mais qui soit présent de loin en loin, en expliquant ses doutes, les moments où il a ajouté quelque chose, où il a été obligé de bien huiler finalement les petits endroits qui pouvaient grincer dans le texte. Et donc ce narrateur, pour moi, il était au débat d'une grande neutralité, puisque c'est simplement un rapporteur, c'est simplement un regard sur Maria Cristina. Et j'ai bien veillé évidemment à ce qu'il ne soit pas sexué, justement, et parce que ce qui m'intéresse aussi, c'est le regard de ce personnage-là sur une femme écrivain, et je ne voulais pas que ce soit juste presque une corporation de femmes écrivains entre elles. Et en plus, ça m'amusait beaucoup, évidemment, de le positionner, ce personnage, à l'intérieur de l'histoire. Mais moi, je sais qui c'est, ce personnage, et moi, je sais bien que c'est pas une femme.
C'est quand même une sacrée histoire de règlement de compte aussi, ce roman. Maria Cristina règle ses comptes avec ses parents, sa sœur, d'une certaine manière, avec Clara Mount, qui représente l'imposteur, mais aussi la toute-puissance masculine dans ce qu'il a de très très petit. Une scène est assez terrible. Lui est en train de se refermer au fond de son propre piège. Il est aigri et il lui balance que, grosso modo, une femme peut devenir écrivain si elle est jolie, photogénique, attirante.
Oui, si, pas seulement écrivain d'ailleurs, il y a cette misogynie, cette violence chez certains hommes qui voient le fait que les femmes deviennent de plus en plus sur le devant de la scène, et du coup, qui voient ça d'un mauvais œil, et qui du coup aussi, évidemment, on ne peut que s'apercevoir que dans nos pays occidentaux, au cours du XXe siècle, les femmes ont pris de plus en plus d'importance, et donc c'est la perte d'une domination, c'est une perte de pouvoir. Les hommes qui vivent ça très mal, je ne vais pas vous l'apprendre, tout le monde le sait, et donc l'une des justifications qu'on a que ces hommes ont de dire que les femmes réussissent, évidemment, c'est parce qu'elles sont séduisantes et elles jouent leur séduction. Et c'est quelque chose qu'on entend assez régulièrement, c'est que quand vous êtes le fait d'être quelqu'un de public, en fait, si vous êtes une femme, votre physique compte un milliard de fois plus que si vous êtes un homme. Donc, pour pas mal de corporations et pour pas mal de métiers. Après, il y a des métiers, évidemment, où le physique compte beaucoup, mais dans nos métiers, ou dans le fait d'être écrivain, où théoriquement, on est quelqu'un de l'ombre, on est quelqu'un de la solitude et du silence, on n'est pas quelqu'un qui est censé être exposé, eh bien, finalement, ça compte et on va laisser entendre, malgré tout, par exemple, on dit toujours que si une femme a le Goncourt, j'ai toujours entendu, à chaque fois qu'il y a une femme qui a le Goncourt, on dit « Ah oui, elle l'a eu parce que c'était une femme !» Comme si, voilà, on leur donnait un truc cette année, et je trouve ça incroyable. Et donc, c'est presque malgré eux que les gens disent des choses de ce genre, et même parfois, ce qui est terrible, c'est que les femmes répètent ce genre de choses.
Complètement.
Donc le genre est quelque chose d'assez fondamental dans nos sociétés, évidemment, et puis dans nos métiers.
Et tout en même temps, la grâce des brigands peut s'entendre comme le fait de gracier tous ces imposteurs, tous ces voleurs plus ou moins toxiques. Ils sont charmants, mais ils seront aussi graciés par Maria Cristina d'une certaine manière. Il vaut mieux, Véronique Ovalde, penser à sauver celles et ceux qui racontent des histoires, j'ai envie de vous dire.
Ouais, mais pas seulement, c'est aussi le fait que j'ai toujours eu beaucoup d'amitié, beaucoup d'indulgence pour les brigands, pour les affreux. Mais voilà, je crois que j'aime bien les gens qui transgressent légèrement, qui sont pas tout à fait comme il devrait être, comme la norme le aimerait qu'il soit. J'aime bien les affreux. Et j'en parlais hier avec Véronique Colmy, qui est écrivain aussi, qui me disait qu'en fait, dans un roman, elle a tendance à s'identifier plutôt aux salauds qu'aux gentils. Et je trouve ça intéressant parce que, en effet, il y a cette possibilité de gracier le salaud, cette possibilité de l'ambiguïté, de l'ambivalence du brigand et donc du salaud. Et par exemple, là, on a un personnage comme Raphaël Claramunt qui est écrivain nobélisable, qui est un affreux bonhomme, génie autoproclamé, qui est en même temps très très pathétique, parce qu'il est extrêmement misogyne, il a plein de défauts, il est très méchant avec tous ses pairs, mais en même temps, il peut être très protecteur, il peut être en effet très très attendrissant aussi. C'est un homme intelligent, blessé. Donc il y a tout un. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, évidemment, c'est pas le blanc et le noir, c'est les nuances un peu plus grises.
C'est ça, c'est les failles. Est-ce que vous avez ressenti que le fait d'aborder la question de l'écriture et de la lecture, mais surtout de l'écriture, pourrait modifier la suite de vos projets? Une sorte de palier qui dirait ça, c'est fait, je peux aller vers toute autre chose?
J'en sais rien, en fait. J'ai pas pensé à ça comme ça. En fait, c'est, au moment où j'écris le texte, je ne pense pas à ce qui va se passer après, surtout pas, parce que je crois que ça me tétaniserait, en quelque sorte, ça me paralyserait. En fait, j'y pense après l'écriture du roman, après la promo du roman, voilà, quand je n'ai plus à faire ce commentaire de mon propre texte, où la question se pose réellement, en effet, où est-ce que je vais maintenant, puisque le but de l'affaire, c'est évidemment pas d'additionner un livre derrière un autre livre. Et c'est ça qui est difficile à faire, c'est que c'est pour ça qu'en fait, plus on écrit, plus c'est difficile finalement d'écrire. À la fois, c'est plus facile parce qu'on a de la technique, on connaît, on sait raconter une histoire, on sait quand un personnage, on sait faire une intrigue, on connaît, on sait aussi ce qui nous intéresse dans la forme même, l'exploration de la forme littéraire. Mais au fond, ça devient de plus en plus difficile parce que parce que je crois qu'on retire des masques à chaque fois. En fait, on se défait de quelque chose de plus à chaque fois, et que du coup, il faut creuser sans se renouveler artificiellement et puis sans se répéter de façon infinie. Donc c'est assez subtil comme petite chose là. Donc je sais pas du tout en fait où je vais aller après. On verra bien.
Véronique Ovaldé, merci infiniment d'abord pour La Grâce des Brigands et puis d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. La dernière est celle de Rock and Page. Quel titre de musique choisiriez-vous pour évoquer votre roman?
Alors, je crois que je prendrais The Joker avec The Steve Miller Band qui apparaît dans le roman.
Ouais.
Et une chanson qui est justement sur les Jokers, sur les affreux personnages, et en plus qui est une chanson, je crois, de 76, je pense, ou 73, et qui a un son très 70s, un son très californien, avec le bruit du bottleneck là sur la guitare. Donc voilà, il y a tout ce qu'il faut dans ce morceau-là pour illustrer La Grâce des Brigands.
Parfait, merci beaucoup.
Merci à vous.
Rock and Page, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Bruno, à la technique. Je vous rappelle que nous venons de causer avec Véronique Ovaldé en personne de La Grâce des Brigands, son tout dernier roman paru en août aux éditions de l'Olivier. Je rajoute que je pourrais vous causer sur plusieurs numéros de Rock and Page de suite de ce roman-là, que je n'ai que trop peu évoqué l'écriture virtuose, brillante, foisonnante et ludique d'Ovaldé, et je m'en excuse. Alors maintenant, c'est à vous de jouer. Moi, je vous laisse en compagnie d'Arcade Fire avec un extrait de Reflector, leur dernier album, et j'ai choisi Arcade Fire pour leur force équivalente à l'écriture de cette immense madame qui est Véronique Ovaldé.